بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكوك جورديو كوموس الكور دو فيق إن شاء الله à partir du livre كتاب الفيق الميسر في ضوء الكتاب والسنة. En fait, ça c'est un livre qui a été préparé par plusieurs savants différents sous la responsabilité de l'État saoudien, en fait, du centre Al-Mujamma Al-Malik Fahd. C'est-à-dire c'est un centre à Médine qui s'occupe de, notamment d'imprimer le Coran, etc., des traductions, tout ça. Et ça, donc, ils font aussi des petits livres. Ils avaient fait un livre sur l'Iman et ils ont aussi décidé de faire un livre sur le fiqh, qui soit simple. Donc, c'est-à-dire, dedans, ils ne vont pas mentionner de divergence ni rien du tout. Mais ce qui est bien, c'est-à-dire, dans ce livre, par rapport aux autres livres qui sont simples, ou on va dire trop simples, c'est qu'ils mentionnent à chaque fois les preuves et de où elles sortent, c'est-à-dire les hadiths. Donc on commence avec Kitab al-Tahara, c'est-à-dire le livre de la pureté, entre guillemets, c'est-à-dire tous les chapitres qui concernent la pureté rituelle. Donc il dit awwalan Kitab al-Tahara wa yashtamilu ala asharati abwab. Al-bab al-awwal, donc le premier chapitre dans le chapitre de la pureté rituelle. Fi ahkam al-taharati wal miyah wa fi 'iddatu masail. Donc d'abord c'est tout ce qui concerne les eaux. Donc il dit المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. Donc d'abord la première question c'est de définir la tahara et son importance et ses catégories. Donc il dit أولا أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. Donc الطهارة, donc la pureté, c'est la clé de la prière, c'est-à-dire on peut prier que, faire la salat que si on a cette condition qui est at-tahara. Et c'est la condition la plus appuyée parmi les conditions de la prière, et qui doit être bien sûr, qui doit devancer la salat, puisque la condition elle se fait avant la chose dont elle est une condition. وَالطَّهَارَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلِ طَهَارَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِ وَكُلِّ مَا رَانَ عَلَيْهِ وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس. Donc il dit الطهارة, la pureté elle est de deux sortes. La première c'est la pureté ma'nawiya, c'est-à-dire c'est significatif, abstraite on va dire, qui est la pureté du cœur, qui soit purifié du shirk, c'est-à-dire de l'association à Allah et des péchés et de tout ce qui peut corrompre le cœur. Et ça, c'est plus important que la pureté du corps. Puisque cette pureté du corps, elle ne peut être qu'avec la pureté du cœur. Comme Allah il a dit dans le Coran, les mushrikoun, c'est-à-dire les associateurs, ne sont qu'une impureté. Donc, c'est-à-dire une impureté abstraite, pas en eux-mêmes. وَالْقِسْمُ الثَّانِي الطَّهَارَةُ الْحِسِّيَّةُ وَسَيَأْتِ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيهَا فِي الْأَسْطُرِ التَّالِيَةِ. Et la deuxième sorte de tahara, de pureté, c'est la pureté concrète, c'est-à-dire du corps. Et c'est celle dont on va parler après. Donc c'est celle-là dont on parle dans la science du fiqh. Donc il dit ta'arifuha wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan-nazahatu min al-aqdar. Donc dans la langue arabe tahara, c'est-à-dire la propreté et la pureté, le fait d'être pur des saletés. Wa fil istilah raf'u al-hadath wa zawal al-khabath. Et dans la religion, c'est-à-dire dans le lexique des ulama du fiqh, c'est le fait d'enlever al-hadath et que cesse al-khabath. Donc al-hadath et al-khabath, c'est le fait que ça s'enlève, c'est ça tahara. Donc qu'est-ce que c'est le khabath et qu'est-ce que c'est al-hadath? Il dit wal muradu bi irtifa' al-hadath izalatu al-wasf al-mani' min as-salati bi isti'mal al-ma' fi jami' al-badan in kana al-hadath akbar wa in kana hadathan asghara yakfi mururu 'ala a'dha' al-wudu' bi niyya wa in faqada al-ma' أو عجز عنه استعمل من ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. Donc quand il dit le fait d'élever, c'est-à-dire d'enlever al-hadath, il dit le fait d'enlever al-hadath, c'est-à-dire d'enlever cette caractéristique qui empêche la personne de faire la prière en utilisant l'eau, soit en utilisant l'eau sur tout le corps, si ce hadath c'est le hadath, le grand hadath, c'est-à-dire al-janaba, ou soit sur les membres des ablutions, concernés par les ablutions, si c'est le hadith le plus petit. Donc le hadith, il est de deux sortes. Le grand hadith et le petit hadith. Donc le grand hadith, c'est ce qui emmène un janaba et qui demande de se nettoyer le corps complet. Et le petit hadith, donc l'exemple de petit hadith, c'est aller aux toilettes par exemple. Et le grand hadith, c'est avoir un rapport avec sa femme, etc. Donc il dit, c'est de l'enlever avec l'eau ou alors avec ce qui remplace l'eau quand on perd l'eau ou quand, c'est-à-dire quand on n'a plus d'eau ou quand on ne peut pas utiliser l'eau. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. Et ce qui veut dire par le fait que cesse el khabath, c'est-à-dire entre guillemets la saleté, c'est que cesse ou s'enlève el najasa, c'est-à-dire les impuretés, qu'elles s'enlèvent du corps, du vêtement et de l'endroit dans lequel on fait la prière. Donc comme les impuretés, par exemple les excréments, l'urine, le madi, etc. Donc pour bien résumer, at-tahara, elle concerne deux choses. Elle concerne le fait d'enlever ce qui t'empêche de faire la prière. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est al-hadath, c'est pas quelque chose qu'on voit. Le fait que la personne elle n'ait pas ses ablutions, on ne le voit pas. Qu'elle ait eu un rapport avec sa femme ou qu'elle soit allée aux toilettes et qu'à cause de ça elle puisse pas faire ses ablutions, elle puisse pas faire la salat, pardon, ça s'appelle al-hadath. C'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose de concret sur la personne. Donc c'est enlever ça, c'est-à-dire par les ablutions et le rousl ou le tayammum. Et de l'autre côté, c'est enlever les saletés, al-khabath, c'est-à-dire tout ce qui a été déclaré impur dans la religion. Donc, al-tahara, à cause de tout ça, on va devoir connaître par quoi on enlève le hadath. Donc, on va devoir parler de l'eau, de la terre, c'est-à-dire de tayammum. On va devoir parler de comment on fait les ablutions, de comment on fait le rousl, de qu'est-ce qui entraîne à faire les ablutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous impose de faire, ou ce qui nous est. Ce pourquoi il nous est préférable de faire les ablutions ou le rousl. Qu'est-ce qui rompt nos ablutions ou qui nous rend en état de janaba, et quelles sont les impuretés qu'on doit enlever, comment on les enlève. Donc tout ça, c'est le chapitre de Tahara. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. Donc ça on l'a déjà dit. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. Ça on l'a dit aussi. Donc il dit والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله وخبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه. Il dit en ce qui concerne الخبث, c'est-à-dire les impuretés, elles sont de trois sortes. Une sorte qu'on est obligé de laver, une sorte qu'on est obligé d'asperger et une sorte qu'on est obligé d'essuyer, c'est-à-dire de sans eau. Donc ça c'est pour simplement, c'est la première question simplement pour comprendre de quoi on parle. Ensuite il dit al-mas'alatu thaniya, al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-tahara. Donc là il rentre vraiment dans les questions du fiqh. Il dit la deuxième question, donc l'eau avec laquelle on acquiert la pureté, tahara, on fait at-tahara. Donc il dit at-taharatu tahtaju ila shay'in yatatahharu bihi yazalu bihi an-najasa an yazalu bihi an-najasu wa yarfa'u bihi al-hadath. Donc la pureté, le fait de se purifier, ça demande quelque chose par lequel tu te purifies, par lequel tu enlèves les impuretés et tu enlèves le hadith. Et ça c'est l'eau. Et l'eau par laquelle on fait le tahara, c'est le ma al-tahur, l'eau qui est qualifiée en arabe de tahur. Et c'est l'eau qui est pure en elle-même et qui purifie autre que elle. C'est ça la signification de tahur. Si on dit at-tahur, c'est-à-dire la purification. Et at-tahur avec le a, c'est-à-dire l'eau avec laquelle on se purifie. Wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa 'alayha, sawa'an kana nazilan min as-sama' kal-matari wa dhubi al-thuluj wal-barad aw jariyan fi al-ard kama'i al-anhari wal-'uyun wal-abari wal-bihar. Donc c'est l'eau qui est restée comme Allah l'a créée, qui est restée pure telle qu'elle est, sur la caractéristique sur laquelle Allah l'a créée, qu'elle descende du ciel, ou qu'elle soit, c'est-à-dire que ce soit de la pluie, ou de la glace, ou de la neige, ou qu'elle soit sur terre comme les fleuves, ou les sources, ou les mers, etc. Tout ça c'est l'eau par laquelle on peut se purifier. Les qawlihi ta'ala, wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah il a dit dans le Coran, donc il fait descendre du ciel de l'eau pour que vous vous purifiez avec, ou pardon par laquelle il vous purifie, pour qu'il vous purifie par cette eau. C'est-à-dire, il a bien dit que par cette eau, on est purifié. Et dans un autre verset, nous avons fait descendre du ciel une eau tahour, tahour, c'est-à-dire purificatrice. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والبرد. Il a dit aussi dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit: Oh Allah, lave-moi de mes fautes par l'eau, par la neige et par la glace. Donc ce hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Et aussi vis-à-vis du hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos de l'eau de la mer, son eau est pure, tahour. C'est-à-dire, si on traduit comme ça, l'eau, la mer est celle dont l'eau est pure et dont les bêtes mortes sont licites. ولا تحصل الطهارة بماء عين غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلو كانت الطهارة تحصل بماء عين غير الماء لنقل عادم الماء إليه لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. Donc il dit, et le tahara, la pureté rituelle, donc elle ne peut se faire qu'avec l'eau, elle ne peut pas se faire par un autre liquide, comme par exemple quelqu'un qui voudrait se purifier avec le vinaigre ou avec de l'essence ou du jus de fruits, etc. Ça, c'est interdit parce qu'Allah il a dit, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites at-tayammum. Donc si les autres liquides que l'eau, on pouvait se purifier avec, il n'aurait pas dit simplement si vous ne trouvez pas d'eau. Il aurait dit de si vous ne trouvez pas d'eau, alors trouvez un autre liquide avant d'essayer at-tayammum. Al-mas'alatu thalitha, al-ma'u idha khalatathu najasa. Donc bien sûr, après on va parler de l'eau sous ces différentes formes, et là il dit la troisième question, c'est l'eau quand elle est mélangée à une impureté. Bon, des fois je vais devoir rajouter des petits commentaires entre guillemets par rapport notamment à ce que j'ai étudié à Médine, tout ça, et notamment dans cette question. Donc il dit l'eau quand elle est mélangée à une impureté, donc ça c'est une des questions du fiqh et une des questions sur laquelle les ulama ont divergé, c'est à dire l'eau quand elle est en contact avec une impureté, c'est-à-dire de l'urine ou des excréments ou autre chose. Donc il dit al-ma'u idha khalatathu najasatu faghayyarat ahad awsafihi thalatha rihahu aw ta'mahu aw lawnahu fa huwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu fala yarfa'u al-hadath wa la yuzilu al-khabath sawa'an kana kathiran aw qalilan. Donc il dit la première chose à savoir, c'est que l'eau, si elle se mélange à une impureté et que cette impureté change une de ses trois caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle change l'odeur de l'eau ou son goût ou sa couleur, alors cette eau devient najis, c'est-à-dire elle est une impureté. Quelle est la preuve de ça? C'est l'ijma, c'est-à-dire le consensus des ulama. Ici il ne l'a pas mentionné, mais l'ijma, le consensus des ulama qu'il cite ici, il a été cité notamment par An-Nawawi, par Ibn al-Mundir, c'est-à-dire par plusieurs ulama. Et aussi l'imam Ahmed, il a dit, dans ce sujet, il n'y a pas de hadith, mais quand la bête morte tombe dans l'eau, et que l'eau, c'est-à-dire prend les caractéristiques, l'odeur ou le goût de la bête morte, l'eau elle devient impure. Donc c'est-à-dire que l'eau elle devient impure si une de ces trois caractéristiques change à cause d'une impureté. Là il faut bien retenir, à cause d'une impureté. Là, on parle des impuretés, parce qu'après on va voir que si c'est à cause de quelque chose d'impur, le jugement il est autre. Donc la preuve de ça, c'est l'ijma', c'est-à-dire le consensus des ulama, même s'il y a un hadith qui est à la base de ça, mais ce hadith il est dans Sunan Ibn Majah et il a été qualifié de faible dans son authenticité. C'est le hadith d'Abi Umam al-Bahili qui est aussi dans Sunan al-Bayhaqi, quand il dit al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay' illa an إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تقع فيه. C'est-à-dire dans le hadith il dit l'eau est pure, rien ne la rend impure sauf si son c'est-à-dire comme l'ijma il a dit, sauf si son odeur, sa couleur ou son goût change à cause d'une impureté qui est tombée dedans. mais ce hadith il est faible, mais sa signification elle est vraie, puisque les ulama ils sont tous d'accord sur sa signification. Et notamment il y a aussi des athars, c'est-à-dire les paroles des tabi'in, la deuxième génération, qui disent cette chose-là, notamment Zuhri par exemple, qui disent que l'eau, si elle change une de ses trois caractéristiques à cause d'une impureté, elle devient impure. Donc il dit ensuite, donc il dit donc à ce moment-là, on n'a pas le droit de l'utiliser, elle ne peut pas servir pour les ablutions ou le roussel, et elle ne peut pas servir à enlever les impuretés. Qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, ça, ça ne change pas. Amma in khalatat an-najasa wa lam tataghayyar wa lam yataghayyar ahadu. Amma in khalatat an-najasa wa lam tughayyar ahad awsafihi fa in kana kathiran lam yanjus wa tahsulu at-taharatu bihi. Donc il dit, mais si l'impureté se mélange avec l'eau sans changer une de ses caractéristiques, si l'eau est en grande quantité, alors l'eau ne devient pas impure et on peut se purifier avec. Cette partie-là, il n'y a pas de divergence entre les ulama. C'est-à-dire que l'eau, quand elle est en grande quantité, si une impureté tombe dedans et qu'elle ne change rien à cette eau, elle ne change pas une de ses trois caractéristiques, l'eau, elle est toujours pure. « Wa amma in kana qalilan fayanjus wa la tahsulu at-taharatu bihi. » Il dit, mais si l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure. C'est-à-dire dans le simple fait qu'elles sont en contact avec l'impureté, même si elles ne changent pas. Et donc on ne peut pas se purifier avec. Ça, c'est l'opinion en vérité de certains ulama, comme parmi les ulama des Madahib, Al-Shafi'i, rahimahullah. Et aussi Abu Hanifa. Et aussi, c'est une version dans Madhab de l'imam Ahmed. C'est pas lui qui dit le livre, ça c'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire que dans les quatre Madhab, l'imam Al-Shafi'i, il dit. Quand l'eau elle est en petite quantité, le simple fait qu'elle rentre en contact avec une impureté, ça fait que l'eau elle devient impure, même si elle change ni de goût, ni de couleur, ni d'odeur. Et aussi Abu Hanifa disait ça, et c'est un des avis de l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed, rahimahullah, en vérité, dans chaque question, tu trouves un, deux, trois avis de l'imam Ahmed. Il y a beaucoup de versions différentes rapportées de l'imam Ahmed. Et c'est ce qui est connu dans le madhab, c'est-à-dire l'école hanbalite. Donc on ne parle pas de l'imam Ahmed, on parle de l'école hanbalite, c'est-à-dire qui a suivi dans les siècles d'après. C'est ça leur madhab. C'est que quand l'eau elle est en petite quantité, si elle est en contact avec l'impureté, même sans changer de caractéristique, elle devient impure. Ensuite il dit « وَحَدُّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرُ وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ ذَلِكَ. » Et c'est quoi la limite qui différencie l'eau en grande quantité de l'eau en petite quantité? Il dit c'est quand l'eau elle atteint deux qulla. Qulla c'était un grand récipient qu'ils avaient à l'époque. Donc il dit quand elle atteint l'équivalent de ces deux qulla, c'est-à-dire une grande quantité, c'est là qu'elle est considérée comme beaucoup d'eau qui ne change pas par la pureté. Et quand elle est en dessous de ça, elle change par la pureté. Ça c'est l'opinion de l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, qui disait que l'eau, quand elle est en petite quantité, elle devient impure par le contact de la pureté, lui, il ne voit pas que c'est par rapport au qullatay, deux qulla. Lui, il ne voit pas ça. Lui, il dit autre chose. Il dit que l'eau qui est en petite quantité, en tout cas ce qui a été rapporté de lui, c'est l'eau qui, si tu bouges avec ta main le bout de l'eau, par exemple, tu as un récipient, tu bouges l'eau, l'autre bout, il va changer aussi. C'est-à-dire la vibration, elle va arriver jusqu'au bout. Si la vibration n'arrive pas jusqu'au bout, c'est que c'est beaucoup d'eau. Donc elle ne change pas. Donc ça, c'est la peine de ni de hadith, ni de preuve de la révélation, mais c'est simplement, c'est un ijtihad, c'est un effort personnel. Donc en tout cas, ce qu'ils ont dit ici, en vérité, c'est le madhab de l'imam Shafi'i. C'est ce qui est connu dans le madhab des Hanbalites. Il dit ensuite, « وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِ. » Il dit la preuve à ça, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Le hadith qui est l'eau est pure, rien ne la rend impure. Donc ce hadith, il est dans les différents livres de Sunan, il a été authentifié par Sheikh al-Albani. Il le mentionne ici, c'est pour ça qu'il est bien lu. Ils ne vous laissent pas comme ça sans hadith. Ils mettent les hadiths qui prouvent ce qu'ils disent, puis dans la marge, ils vous mettent d'où il sort le hadith et. Authentification des différents genres du hadith. Donc ça, ce hadith, c'est la base pour dire que l'eau, elle est pure dans la sunna. Ensuite, il dit wa hadith ibn Umar radiallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal idha balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Et le hadith d'Ibn Umar, quand il a dit, c'est-à-dire dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau atteint deux qullas, elle ne porte pas l'impureté, al-khabath. Ce hadith aussi est dans les différents livres de Sunan et où il a été authentifié par Cheikh al-Albani. Donc ça c'est l'opinion, comme je vous ai dit, ce qu'ils ont mis ici dans le livre, c'est l'opinion de l'imam Shafi'i. Mais là je me permets de faire une remarque, c'est parce que beaucoup de ulama al-Sunnah wal-Jama'a parmi les muhaqqiqin, ils ont préféré l'autre opinion, notamment Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et tous les ulama de la da'wa salafia du Najd, jusqu'à nos jours, Ibn Sheikh al-Baz, Sheikh al-Uthaymin, et notamment aussi Cheikh al-Albani parmi les contemporains, rahimahumullah. Ils disent, eux, l'eau, c'est-à-dire le fait qu'elle soit pure, qu'elle soit en grande quantité ou en petite quantité, ça ne joue en aucun cas sur la pureté ou l'impureté de l'eau. Comment on connaît la pureté de l'eau ? Donc l'eau, à la base, elle est pure. Comment elle devient impure ? C'est si. Donc l'eau, elle est pure, le dalil, on l'a ici. C'est le hadith d'Abu Saïd. Et ça, tout le monde est d'accord dessus entre les ulama. Elle devient impure si elle change de goût, d'odeur ou de couleur à cause d'une impureté. Mais est-ce que ça c'est propre que quand c'est vrai que si l'eau elle est en grande quantité et pas quand elle est en petite quantité, ils disent non. C'est-à-dire que même si elle est en petite quantité, le fait que l'eau elle entre en contact avec l'impureté, ça ne suffit pas pour qu'elle devienne impure. Il faut qu'elle change de caractéristique. Selon quoi ? Selon le consensus des ulama. On a déjà vu comme quoi l'eau, quand elle change de caractéristique, une des trois caractéristiques à cause d'une impureté, elle devient impure. Donc jusque-là, les preuves, on les connaît. Donc elle est où la différence quand vous regardez bien ? Les premiers ils disent l'eau qui est en petite quantité, qui est moins de 2 qullas, ce qui équivaut à peu près à 191 litres, on va dire. L'eau qui est en petite quantité, on va prendre quelque chose de concret pour que ça reste dans la mémoire. Par exemple, on a une jarre d'eau et une impureté elle tombe dedans. Pour ceux qui suivent l'opinion qui est écrite dans le livre ici, que l'eau elle est changée ou pas, elle devient impure. Pour les autres, donc les autres que j'ai cités, qui n'est pas l'avis qu'ils ont cité ici dans le livre, ils disent non, même si elle est en petite quantité, elle devient impure que si elle change de caractéristique. Donc les premiers, ils sont basés sur quel hadith ? Sur le hadith d'Ibn Umar, où il a dit quand l'eau atteint deux qullas, elle ne supporte pas l'impureté. Et dans une autre version, il a dit lam yanjus, elle ne devient pas impure. Qu'est-ce qui répond à ça les autres ? Ils disent, ce hadith, il dit que quand l'eau est en grande quantité, elle ne devient pas impure. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il dit que quand elle est en petite quantité, elle devient impure ? Ça, c'est ce que vous avez compris du hadith. Et ça, c'est contraire. C'est-à-dire, cet avis-là, ce que l'on comprend du hadith, c'est-à-dire, suivez bien, le hadith, il dit, quand l'eau atteint deux qullas, elle ne devient pas impure. On en comprend que si elle n'atteint pas deux qullas, elle devient impure. Par le simple fait qu'elle touche al-najasa. Mais ça, c'est ce qu'on comprend du hadith. C'est pas ce que le hadith dit. On appelle ça al-mantuq. Ça, c'est le mafhoum, c'est-à-dire c'est ce qu'on comprend du hadith. Est-ce que ce mafhoum, les sahaba et les tabi'in, ils l'ont compris aussi ? Et est-ce qu'on a des fatawa, des salafs, qui sont conformes à ce mafhoum-là, à cette compréhension ? On n'en a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas parmi les sahaba qui ont dit, quand l'eau est en petite quantité, même si elle ne change pas de caractéristique, elle devient impure. Tout ce qu'on a chez dans le salaf, c'est que l'eau elle est pure, et si elle change de caractéristique, elle devient impure. Donc ils ont dit, le hadith il veut dire, quand l'eau elle est en grande quantité, et qu'elle touche une impureté, elle ne devient pas impure si elle ne change pas de caractéristique. Ce qui n'implique pas que c'est l'inverse quand elle est en petite quantité. Parce que ce qui veut dire, quand elle est en petite quantité, ce qu'on profite du hadith, c'est que si elle est en petite quantité, parfois elle va devenir impure, parfois elle va ne pas le devenir, plus souvent que si elle est en grande quantité. Parce que généralement, une eau, en grande quantité, elle ne va pas être changée à cause d'une impureté. Alors que quand elle est en petite quantité, généralement, elle va changer de caractéristique. Mais on ne tire pas du hadith que l'eau, elle change automatiquement. Et notamment, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui disait ça. Et un des arguments, en fait, pour me comprendre, c'est que
En fait, ce hadith, si on le prend complet, dedans, il dit qu'un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à propos des eaux auprès desquelles viennent as-siba', as-siba', c'est-à-dire comme les loups, les chiens, etc. Donc peut-être ils urinent dedans, peut-être il y a des cadavres dedans. Donc il y a des impuretés dedans. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, quand l'eau atteint deux qulla, elle ne supporte pas l'impureté. Donc il a été questionné à propos de l'eau qui est en grande quantité. Donc sa réponse, elle ne concerne que l'eau qui est en grande quantité. On ne peut pas l'appliquer ou en comprendre quelque chose pour l'eau qui est en petite quantité. Parce que quand on pose une question au prophète sur un cas précis, lui il va donner sa réponse et on peut la comprendre que sur ce cas, c'est-à-dire en l'occurrence l'eau qui est en grande quantité. Donc ça ne s'applique pas, on ne peut pas en comprendre une règle qui sera appliquée à une eau qui est en petite quantité. Un autre argument aussi qu'ils ont utilisé, c'est de dire l'islam, il donne des règles qui sont faciles à appliquer. Est-ce que c'est facile pour toi d'appliquer, de savoir est-ce que cette jarre dans laquelle, ou cette bassine, ou ce récipient dans lequel il y a une impureté qui est tombée, de savoir s'il fait 191 litres d'eau ou 189. C'est-à-dire que l'islam, il dirait que quand, si elle fait 189, elle devient une impureté. Mais si elle fait 191, c'est pas une impureté. Alors que l'eau, elle est la même. Ça, c'est pas logique. Et l'islam, quand on regarde les règles de l'islam, elles sont toujours logiques. C'est-à-dire que c'est des choses que la raison, elle accepte facilement et qui sont faciles pour l'être humain. Or là, ça serait difficile. Ça serait imposer aux êtres humains des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et surtout à cette époque-là. À cette époque-là, qui peut savoir que ce récipient est fait de Koula ou pas de Koula. Sachant en plus que le Koula, c'était les récipients qui étaient connus à Médine. Et peut-être dans les autres villes, ils n'utilisent pas ce récipient-là. Donc ils ne peuvent pas savoir. Un autre argument aussi, ce qui a été utilisé notamment par Ibn al-Qayyim, c'est comme s'il a retourné ce hadith contre eux. C'est de dire, dans le hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, l'eau, quand elle atteint deux qulla, c'est-à-dire une grande quantité, il a dit, lam yahmili al-khabath, elle ne supporte pas l'impureté. Donc il a dit, ça prouve que là, le point décisif qui rend l'eau impure, c'est qu'elle supporte l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire, yahmili al-khabath? C'est-à-dire que le khabath, la saleté, l'impureté, elle soit apparente dedans. C'est ça, ça veut dire elle supporte, elle porte l'impureté. C'est-à-dire que l'eau, tu vois l'impureté dedans. À ce moment-là, on dit yahmilu khabath, il porte l'impureté. Il dit, ça prouve bien que la chose, la caractéristique, le point autour duquel ça tourne, c'est bien que l'eau, elle porte ou pas l'impureté. Pas qu'elle soit en grande ou en petite quantité. Puisqu'à la fin du hadith, il a bien dit, elle ne porte pas l'impureté. Donc on en revient à, tout simplement, si l'eau elle porte l'impureté, c'est-à-dire que l'impureté elle est extériorisée dans l'eau, à tel point que son odeur, ou sa couleur, ou son goût a pris le dessus sur l'eau, alors yahmilu al-khabath, qu'il soit en grande quantité ou pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé une de ces trois caractéristiques, alors l'eau elle reste pure, qu'elle soit en grande quantité ou pas. Et ça c'est l'opinion la plus simple, la plus logique, et il y a des prédécesseurs, notamment parmi les quatre imams, c'est une des versions qui a été ramenée de l'imam Ahmed, et c'est l'opinion de l'imam Malik. C'est-à-dire chez l'imam Malik, il y a juste soit l'eau elle est pure parce qu'elle est telle qu'elle, ou soit elle est impure parce qu'elle a été chargée de caractéristiques, sans différencier si l'eau elle est en grande quantité ou pas. Donc j'espère que ça a été assez clair sur ça.
On passe à la question suivante, il dit.
Changement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai, si tu mets par exemple un peu d'urine dans beaucoup d'eau, ça va rien faire. Alors que peut-être du sang, ça va commencer à changer l'eau. C'est-à-dire, c'est vrai, les impuretés, elles changent. C'est-à-dire, elles n'ont pas forcément le même effet les unes aux autres. Et après, dans les ulama des madhahib, c'est-à-dire, ils ont rajouté encore des complications. Il y en a, ils ont dit, si c'est bin mujawara, ou si c'est bin mukhalata, c'est-à-dire si c'est une chose qui tombe dans l'eau, sans se mélanger à l'eau. Ou alors si ça se mélange à l'eau, c'est-à-dire comme du sirop, il se mélange dans l'eau par exemple. Alors c'est quoi le jugement? ou si l'eau elle est là et la bête morte par exemple elle est à l'extérieur, c'est pas le même jugement. C'est des complications, c'est-à-dire du rajout et des complications qui, si on revient au hadith du prophète, on ne retrouve pas débat. C'est pour ça le fait que le plus simple, c'est le fait de tirer du hadith en vérité. Et c'est de revenir le plus loin possible. Et notamment aux ulama et aux muhaqqiqin, comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, c'est-à-dire ce genre de ulama qui cherche les questions simplement. C'est-à-dire ils ne rajoutent pas des conditions ou des conditions ou des caractéristiques, etc. dont les hadiths ne parlent pas. Ils prennent ce qu'il y a dans le hadith simplement comme condition sans en rajouter. Et ils ne font pas de différence entre les choses dans lesquelles il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de différence dans les hadiths. Alors que dans les ulama des madhahib, il y a des complications comme ça dans le fait. Mais pourquoi elles sont arrivées souvent ces complications? Des fois c'est aussi pour défendre la parole de leur imam. C'est-à-dire pour défendre la parole de l'imam, on prend les dalils et parfois on les manipule ou alors on essaie de rajouter des paroles qui vont dans le sens de la parole de l'imam pour conforter le madhab, pour conforter l'école. Ensuite il dit, donc la quatrième question, al-mas'alatu al-rabi'a, al-ma'u idha khalatahu tahir. Donc la quatrième question c'est l'eau, le jugement de l'eau quand elle est mélangée à quelque chose de pur. Il dit الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأسنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. Donc il dit l'eau quand elle est mélangée à une matière pure comme les feuilles des arbres ou le savon ou le cidre. Vous connaissez, c'est-à-dire, en fait, c'est que des exemples, n'importe quoi, que ce soit des plantes, etc. Quelle que soit la matière pure qui tombe dans l'eau, qui se mélange à l'eau, et que cette matière pure ne prend pas le dessus sur l'eau. Il dit alors, ils disent, l'opinion authentique, c'est de dire que cette eau est tahour, c'est-à-dire elle est pure et purificatrice. Et on peut se purifier avec, donc, des impuretés et de l'hadith. لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلفظ الماء في الآية ناكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. Et la preuve c'est premièrement dans le Coran la parole d'Allah Azza wa Jal lui dit, si vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous a fait ses besoins, ou que vous avez touché les femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, donc c'est là le morceau du verset qui pousse, qui vient de dire, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors tayammamou, c'est-à-dire faites la purification avec la terre. Donc il a bien dit, si vous ne trouvez pas d'eau, il n'a pas dit de l'eau qui serait pure ou de l'eau qui serait un peu mélangée, il n'a pas fait de différence. Si vous ne trouvez pas d'eau, c'est-à-dire que, pour mieux expliquer ce qu'il y a dans le livre, ils disent tant que la chose elle s'appelle de l'eau, tu peux te purifier avec, même si elle est mélangée. C'est-à-dire, par exemple, il y a un peu de savon qui est tombé dedans, ou il y a un peu de, je sais pas, n'importe quoi qui pourrait, ou des plantes, ou par exemple une flaque dans la forêt. Il y a de la terre qui se mélange, il y a des feuilles, mais ça, c'est toujours de l'eau. Pourtant, elle a changé de caractéristique. Donc, tant que tu peux l'appeler de l'eau, tu peux te purifier avec. Si ça change de nom, c'est-à-dire la chose qui s'est mélangée à l'eau, a vaincu l'eau, à tel point que l'eau a pris son nom, comme par exemple le thé. Le thé, ça n'est que de l'eau, à 99%, qui se mélange avec un peu, qui prend les caractéristiques du thé, qu'on fait infuser dedans. Mais on n'appelle pas ça de l'eau. Si je te dis c'est à moi un verre d'eau, et que tu me ramènes un verre de thé, bon, c'est pas ce que j'ai demandé. Ou alors, par exemple, du Coca-Cola, ou du café, toutes ces choses-là, ça c'est plus de l'eau. Ça porte un autre nom, donc on peut pas se purifier avec. Mais si c'est de l'eau qui a été un peu entachée de quelque chose, et ça c'est toujours de l'eau, que ce soit un peu pour du vaisselle ou du savon, ou même un peu de café par exemple, qui restait dans un récipient, etc. Ça change pas que c'est de l'eau, donc on peut se purifier avec. Donc là il va citer d'autres preuves encore. Il dit وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنِسْوَةِ اللَّاتِي قُمْنَ بِتَجْهِيزِ ابْنَتِهِ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ لِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. Et aussi parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une de ses filles allait décéder, il avait ordonné donc aux femmes de laver sa fille et de, donc de mettre le linceul, etc. Et il leur a dit, lavez-la 3 fois ou 5 fois ou plus, si vous voyez que c'est nécessaire, avec de l'eau et du cidre. Donc déjà, il leur dit, et c'est une purification rituelle. C'est-à-dire ça, c'est une purification religieuse, le lavage du mort. Et il leur a dit de mélanger l'eau avec du cidre. Et cidre, ça influe sur l'eau. Ça rend l'eau verte, ça donne une couleur, ça fait une mousse d'eau. Et il dit, et mettez dans le dernier lavage du kafour. Le kafour, si je ne me trompe pas, c'est le camphre. C'est-à-dire c'est aussi une matière qui donne du parfum, qui donne une odeur. Ce hadith, il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc ça montre bien que l'eau, malgré qu'elle a été changée par quelque chose, si cette chose elle est pure et qu'on peut toujours l'appeler de l'eau, ça ne change pas le jugement. Ça aussi, ils l'ont aussi tiré, c'est-à-dire une des preuves aussi, c'est le hadith qui est très connu sur la mer. C'est-à-dire qu'il montre que l'eau de la mer, elle est pure. Alors que l'eau de la mer, c'est une des eaux les plus changées par quelque chose de pur. C'est-à-dire que l'eau de la mer, elle a un goût salé, elle a une odeur d'algues et elle a une couleur d'algues ou de terre, etc., ou de sable. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir verte, on peut l'avoir bleue, c'est-à-dire elle prend une couleur qui n'est pas la couleur de l'eau originale, puisque la couleur, elle n'a pas de couleur. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on pouvait se purifier avec. Ce qui prouve bien que l'eau, même si elle change un peu, mais qu'elle s'appelle toujours de l'eau, alors on peut se purifier avec. À condition que ce qu'il a changé, c'est quelque chose de pur. Donc avant de passer à la question suivante, différenciez bien entre ce qui est l'eau quand elle est changée par quelque chose de pur et d'impur. Quand c'est par quelque chose d'impur, son changement il la rend impure. Alors que quand c'est quelque chose de pur, elle reste pure et purificatrice, jusqu'à ce qu'elle change de nom. Ensuite, il dit المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. La cinquième question, c'est le jugement de l'eau qui a déjà été utilisée pour une purification. Donc, il dit الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. Donc il dit l'eau qui a déjà été utilisée pour la purification, comme l'eau par exemple qui tombe des membres de celui qui fait ses ablutions, de celui qui fait le rousse, elle reste tahour, c'est-à-dire elle reste pure et purificatrice, selon la vraie opinion des ulama. C'est-à-dire ça, c'est aussi une question où il y a une divergence. Donc on peut se purifier avec tant qu'elle n'a pas changé une des 3 caractéristiques par une impureté.
ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه البخاري.
Donc la première preuve, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il faisait ses ablutions, un sahabi dit, c'est presque les compagnons, ils se tuaient pour apprendre l'eau du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc c'est-à-dire que elle est pure, elle est restée pure.
ولأنه صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك.
Et aussi parce que, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a versé l'eau avec laquelle il avait fait ses ablutions, il l'a versé sur Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu pour qu'il guérisse parce qu'il était malade. Et si l'eau elle était impure, quand on a fait ses ablutions avec, il n'aurait pas pu faire ça.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقضاح والأوتار ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل.
Et aussi parce que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons et ses femmes, ils faisaient le wudu dans, donc là c'était différemment de récipients, ce sont des petits récipients, et ils faisaient leur rousse dans des bassines. Il dit ça, c'est-à-dire forcément celui qui va faire son roussel ou s'il va faire ses ablutions dans une petite bassine, il y a de l'eau qui va tomber de son corps et qui va retomber dans l'eau, et pourtant l'eau elle ne devient pas impure, il ne peut pas encore l'utiliser. Et aussi, je ne sais pas s'il va citer ici, il ne l'a pas cité, parce qu'il faisait le dos ou le roussel ensemble, c'est-à-dire l'homme et sa femme, ils faisaient le roussel ensemble, donc chacun il n'est pas épargné de l'eau qui tombe de la purification de l'autre. Et aussi un autre hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu qui disait les femmes et les hommes ils faisaient le wudu ensemble à l'époque du prophète, c'est-à-dire l'homme et sa femme, ou alors il y en a qui disent c'est-à-dire les hommes et les femmes avant qu'Allah ne n'impose le hijab, c'est-à-dire C'est-à-dire que l'eau, elle est malgré. Et forcément, celui qui va faire les ablutions avec le côté de quelqu'un, il y aura un peu de son eau qui va tomber dans l'eau de l'autre, et l'autre, il va quand même l'utiliser. Ce qui prouve que l'eau, elle ne devient pas impure à cause de ça. Ensuite, il dit وَلِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ كَانَ جُنُوبًا إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. Et aussi, pour dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, le croyant ne devient pas impur, n'est pas une najasa, n'est pas une impureté. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَفْقُدُ طَهُورِيَّتَهُ بِمُجَرَّدِ مُمَاسَّتَهُ لَهُ. Donc, s'il en est ainsi, l'eau elle ne perd pas sa purification parce qu'elle touche le croyant, plus le croyant n'est pas impur. Donc tout ce qu'il y a dans l'eau par laquelle on a fait la purification, c'est que c'est une eau pure qui a touché un corps pur. Donc en quoi elle va devenir impure? Donc les seules preuves, en fait les preuves des gens qui ont dit c'est impur, parmi les gens des Mazahib, c'est de dire par exemple, ils ont utilisé des hadiths, mais ils en ont sorti des choses, c'est-à-dire que le hadith ne dit pas. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, dans le hadith, de se laver de janaba dans de l'eau stable. Il a juste dit ça, il n'a pas dit ça rend l'eau impure. Et eux, ils en ont tiré, c'est parce que l'eau, elle devient impure à cause du fait que quelqu'un efface le rousse dedans, ce qui prouve que quand tu fais le rousse avec de l'eau, elle devient impure. Ou quand tu fais tu te purifies avec de l'eau, elle devient impure. Ça, c'est ce qu'ils en ont retiré, mais le hadith, en aucun cas, il dit ça. Et le hadith, tout ce qu'il y a dedans, c'est que c'est une protection des eaux déjà, c'est-à-dire les petites mares, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'uriner et de se laver dedans. Pourquoi? Ibn Taymiyyah, tout simplement, il dit c'est de la propreté. C'est simplement pour protéger l'eau que les gens ils utilisent. Parce que si l'un fait le rousse, l'autre il fait le rousse, etc., peut-être que l'eau ne devient pas impure, mais peut-être elle va changer et les gens ils ne voudront plus l'utiliser, etc. Tout simplement. Le hadith il ne dit pas parce que ça rend l'eau impure. Ça, c'est des choses qu'eux-mêmes ils ont tirées qui n'est pas prononcé dans le hadith. Et en plus, donc ici il ne l'a pas cité, il y a aussi un hadith, parce qu'il y a aussi une autre question qui ressemble à ça, c'est la question de savoir est-ce que l'homme peut, ou la femme elle peut, se purifier avec l'eau de son mari, ou l'homme avec l'eau de sa femme. Et il y a un hadith qui est très clair à ce sujet, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin deux hadiths qui semblent contradictoires et qui sont clairs, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. C'est-à-dire, un des sahaba, il dit « Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yartassil al-rajul bi fadli al-mar'a wa al-mar'atu bi fadli al-rajul wa liyartarifa jami'an. » Il a dit à un des compagnons, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que l'homme fasse le rousse avec le reste de sa femme ou que la femme fasse le rousse avec le reste de l'homme, mais plutôt qu'ils prennent tous les deux du récipient. C'est-à-dire, ils sont en dehors du récipient, ils prennent. Donc ça, c'est une interdiction. Mais il n'a pas dit « parce que l'eau devient impure ». Et dans un autre hadith qui est tout aussi clair, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il rapporte, donc ça c'est dans ce sunan, qu'il dit Irtasalat, Ihda Zawjati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi Jafna. Il a dit une des femmes du prophète, et il dit c'est Maïmouna, la tante d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, elle a fait son rousle dans une bassine. Faja an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li yartasila minha, li yatawadda aminha, ou yartasil. Et il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire le dos ou le rousse à partir de cette bassine. Donc, elle a fait le rousse dedans. Donc, toute son eau, elle est retombée dedans. Et le prophète, il est venu se purifier avec cette eau. Faqalat ya Rasulallah, inni kuntu junuban. Quand elle a vu ça, la femme du prophète, elle lui a dit, au messager d'Allah, j'étais en état de janaba. C'est-à-dire, elle a pensé que le fait qu'elle était en janaba empêchait qu'on puisse se laver avec son eau. Et le prophète, il dit Ibn Abbas, faqad, sallallahu alayhi wa sallam, inna al-ma'a la yujnib. Il a répondu, l'eau n'est pas en état de janaba. C'est-à-dire, l'eau, elle ne porte pas le janaba. La janaba, c'est l'être humain qui la porte. L'eau, elle est pure, elle reste pure. Et il a fait ses ablutions, sa purification avec. Donc, l'interdiction qui est dans l'autre hadith, c'est simplement comme une orientation et un conseil. C'est-à-dire que c'est quelque chose de makruh, de détestable et de déconseillé, mais ce n'est pas complètement interdit. Et l'eau en aucun cas devient impure. Ensuite il dit, donc le deuxième chapitre, Al-Bab al-Thani fil Aniya wa fihi 'iddatu masail. Donc le deuxième chapitre, c'est de parler des récipients, Al-Aniya. Pourquoi il parle des récipients? Une fois qu'on a parlé de l'eau avec laquelle on se purifie, il faut parler des récipients qui portent cette eau. Donc il dit Al-Aniya hiya al-awiyyah allati yuhfadu fiha al-ma'u wa ghayruhu sawa'an kanat min al-hadidi aw min ghayrihi wal aslu fiha al-ibaha liqawlihi ta'ala walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Donc à la base, bien sûr, ces récipients ils sont licites. À la base, c'est-à-dire que pour en interdire quelque chose, il faut une preuve, puisqu'Allah a dit dans le Coran, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Donc tout ce qu'il y a sur la terre c'est licite tant que la religion elle ne dit pas le contraire. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. Donc il dit, première question, le fait d'utiliser les récipients d'or et d'argent dans la purification. Il dit يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة. Il dit, il est licite d'utiliser toutes les sortes de récipients pour boire, pour manger, pour les utiliser comme on veut, tant qu'elles sont pures et licites. وَلَوْ كَانَتْ ثَمِينَةً لِبَقَائِهَا عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْإِبَاحَ. Même si elles sont chères, puisqu'elles sont, à la, comme le dit la base des choses, c'est comme on le dit, elles sont licites. La base, c'est qu'elles sont licites. مَا عَدَى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Sauf les récipients d'or et d'argent. Donc premièrement, déjà, ce qui sous-entend notamment, quand il a dit même si elles sont chères, c'est que même si c'est des récipients en émeraude ou en rubis ou en quoi que ce soit, autre que l'or et l'argent, c'est licite de les utiliser. Ça, il faut le savoir. Il a dit sauf les récipients d'or et d'argent. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ فِيهِمَا خَاصَّةً. Il est interdit de boire et de manger spécifiquement dans ces récipients d'or et d'argent. دُونَ سَائِرِ الْإِسْتِعْمَالِ. Spécifiquement le fait de manger et de boire, sans parler des autres utilisations. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, c'est que ce qui est interdit, c'est de manger ou de boire dans ces récipients d'or et d'argent. En ce qui concerne les autres utilisations, c'est-à-dire l'istirmel, ou alors l'yod, ou alors l'ittihad, c'est-à-dire toutes ces, ou l'ittihad, c'est-à-dire le fait de simplement les posséder, de faire l'yod dedans, ou de les accrocher à un mur, par exemple, pour décorer la maison, ou quoi que ce soit, ça c'est licite. Mais c'est-à-dire pour l'amana, je vous dis que ça c'est pas la, c'est-à-dire c'est pas la, l'opinion de tous les ulama, pour que vous sachiez, que vous ne pensez pas que c'est une question où il y a ijma, parce que c'est bénéfique de savoir les divergences pour éviter que c'est-à-dire tu débarques dans un, dans une discussion ou vis-à-vis de quelqu'un et tu lui dis une opinion comme malheureusement la plupart des frères ils font, et ils croient que leur opinion elle est tombée du ciel et qu'il n'y a que ça comme opinion, alors que des fois la majorité des ulama ils disent autre chose et ils en font ça le minhaj salafi, alors que peut-être la majorité des ulama d'islam ils disent le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Donc il faut savoir quand même des divergences. Donc là il dit ce qui est interdit c'est juste manger et boire dans ces récipients. Et d'autres ulama, donc par exemple notamment Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et beaucoup les ulama de la da'wa saoudia, c'est-à-dire la da'wa najdiya, comme Abdel Rahman al-Sa'di, Mohamed ibn Abdel Wahab, le Sheikh al-Mubaz, ils disent non, ils disent tout ce qui est utilisation, c'est interdit. Parce qu'on va voir le hadith, il dit, donc il dit, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi al-dunya, wa lakum fi al-akhira. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Donc il dit, les deux hadiths dans la question, c'est le premier c'est ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans les assiettes d'or et d'argent. Car elles sont pour eux, c'est-à-dire pour les mécréants, ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Ça c'est hadith dans les deux sahih. Et l'autre hadith il est aussi dans les deux sahih, il dit, celui qui boit dans les récipients d'argent ne fait que le djerdjer. Le djerdjer c'est comme il fait un chameau avec l'eau, c'est-à-dire il fait un bruit avec, dans sa gorge avec l'eau. Donc il, on va dire entre guillemets, il ne fait qu'avaler, il ne fait que, on va dire, il ne fait qu'avaler le feu de l'enfer. C'est-à-dire il promet le feu de l'enfer, il compare celui qui boit dans un récipient d'argent à celui qui boirait du feu de l'enfer. Donc ça ce sont les deux hadiths, et vous voyez que les hadiths ils ne parlent que de boire et de manger. Donc de là, beaucoup de ulama ils disent, ce qui est interdit c'est de boire et de manger. Et d'autres ils vont dire, ils vont comparer, c'est-à-dire ils vont dire, si boire et manger c'est interdit, alors qu'en est-il des autres utilisations? C'est encore pire. puisqu'à la limite, boire et manger, ça on en a besoin. Alors que les autres utilisations, on en a moins besoin. Donc c'est encore pire, ça doit être encore plus interdit. Mais le hadith ne le dit pas. Et si tu leur demandes, mais comment vous pouvez dire ça alors que le hadith ne parle que de boire et manger, ils disent quelque chose qui est logique et qui est, c'est-à-dire que dans l'islam, c'est, dans beaucoup de questions, on trouve ce genre d'argumentation, qui est de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de boire et manger, parce que généralement c'est ça qu'on fait avec des récipients. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu dire, c'est d'interdire les récipients. Et il nous a dit, ne buvez pas et ne mangez pas dedans. Parce que généralement, ce qu'on fait avec des récipients, c'est quoi? C'est boire et manger. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que ces récipients eux-mêmes sont interdits. Au même point que on n'a pas le droit de jouer d'un instrument de musique. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire autre chose qu'avec l'instrument de musique. Puisque ce qui est connu, c'est que les instruments de musique, ils sont interdits, il faut les détruire. Notamment cette argumentation, Ibn Taymiyyah l'a utilisé, il a comparé ça avec les instruments de musique. Et d'autres ulama, ils disent non, le hadith il est clair, il parle que de boire et manger, comme notamment il l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen. Et eux, ils ont aussi une preuve qui est très forte. Et finalement, c'est la preuve la plus forte, vous allez voir pourquoi. Parce que les autres, leur preuve c'est quoi? C'est un raisonnement, c'est une comparaison. Alors que les autres, ils disent, ceux qui disent que c'est juste boire et manger, ils ont une preuve, comme il a argumenté Cheikh Mohamed Salah Al-Uthaymeen, rahimahullah. Ils ont dit, celui qui a ramené le deuxième hadith, c'est-à-dire le hadith qui dit, celui qui boit dans les récipients d'argent ne fait qu'avaler le feu de l'enfer. Qui c'est Umm Salama, radiallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama elle-même, il a été rapporté d'elle qu'elle avait un récipient en argent dans lequel il y avait un poil de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand quelqu'un il était malade, il venait chez Umm Salama, elle mettait de l'eau dans le récipient d'argent pour que l'eau passe sur le cheveu du prophète. Ensuite elle le versait dans un verre dans lequel la personne elle buvait, et la personne elle guérissait par la permission d'Allah. C'était quoi le sabab? C'est la baraka du cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a bel et bien utilisé un récipient d'argent. Elle ne l'a pas utilisé pour boire ni manger, mais elle l'a utilisé pour autre chose. Ce qui prouve que l'utilisation, elle est licite. Ce qui est interdit, c'est boire et manger. Et ça, c'est fort, puisque elle-même, elle a rapporté le hadith. Donc elle connaît, elle sait, entre guillemets, de quoi elle parle. C'est pas comme si elle ne connaissait pas, elle ne savait pas que c'était interdit. Elle sait que c'est interdit, puisque elle-même, elle connaît le hadith qui interdit ça. Donc ça fait partie de sa compréhension. Donc ça, c'est un argument très fort. Ça confirme ce qu'ils disent ici dans le livre. Dans le livre, ils disent ça, Wallahu A'lam, parce que notamment, c'est-à-dire eux, dans le livre, ils sont basés sur plein de livres. Et parmi les livres des contemporains, ils ont pris Al-Sharh Al-Mumti'a, c'est-à-dire l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen sur Zad Al-Mustaqim, qui est une explication à la base orale qu'ils ont mise à l'écrit. Donc en tout cas, voilà pour cette question. Il dit فَهَذَا نَصٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ دُونَ سَائِرِ الْإِسْتِعْمَالِ. فدل على جواز استعمالها في الطهارة. Donc il dit ça, c'est un nas, on a déjà expliqué ce que ça veut dire, qui montre l'interdiction de manger et de boire sans parler des autres utilisations, ce qui prouve qu'on peut les utiliser notamment pour la purification. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. Et il dit, et ça, c'est un hadith général. Il comporte les récipients qui sont purement d'or et d'argent, complet 100%, et les récipients qui sont embellis par l'or et l'argent, c'est-à-dire dans lesquels il y a de l'or et de l'argent. Tout ça, c'est interdit. Et tout de suite après, ils mettent Al-Mas'ala al-Thaniya, hukm isti'mal al-ina' al-mudabbab bil-dhahab wal-fidda. Le jugement des récipients qui ont été réparés par de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, al-mudabbab, c'est-à-dire le récipient, il se casse en deux. Et toi, pour le recoller, tu utilises de l'or ou de l'argent pour le recoller, comme pour, en fait, pour souder le récipient. Donc ça aussi, c'est une question dans le fait. Il dit donc, « إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. » Première chose, si la réparation que tu as faite, elle est de l'or, ça, c'est interdit complètement, de façon absolue. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet. لدخوله تحت عموم النص بس كو ساغن دار حديث كنا لي بريسيدام. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء. Mais si cette réparation elle a été faite avec de l'argent et que c'est une petite quantité d'argent, alors on peut utiliser ce récipient. Les hadiths d'Anas radiallahu anhu قال إن كسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. Il a dit, parce qu'un hadith dans Sahih Bukhari d'Anas qui a dit le qadah, c'est-à-dire un récipient, un petit récipient du prophète, comme un verre, il s'était cassé, sallallahu alayhi wa sallam, et il a mis, donc à la place de la cassure, il a mis silsila, c'est-à-dire c'est comme une soudure d'argent, c'est-à-dire pour recoller le verre, il a mis de l'argent dans la fissure. Donc ce qui prouve que c'est licite. Certains ulama, ils ont sorti de certains athars qu'il ne faut pas que l'argent il soit à l'endroit où tu poses ta bouche. Ça a été rapporté notamment d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Il faut que ce soit à l'endroit de la réparation, simplement. Donc on va essayer, on patiente un peu, on va essayer de finir l'aniya, puisqu'il reste deux questions. Il dit Al-mas'alatu thalitha, aniyatul kuffar. La troisième question, c'est les récipients des non-musulmans. Il dit Al-aslu fi aniyatil kuffar, al-hil. Illa idha ulimat najasatuha. Il dit la base dans les récipients des non-musulmans, c'est qu'elles sont licites. Sauf si on sait qu'elles sont impures. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهَا. À ce moment-là, si on sait qu'elles sont impures, c'est-à-dire qu'elles ont été en contact avec de l'impureté, on a le droit de les utiliser que après les avoir lavées. بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ. Parce que dans un hadith, Abu Tha'laba al-Khushani, radiallahu anhu, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, nous habitons dans une terre des gens du livre. Est-ce que nous pouvons manger dans leur récipient ? Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha farsiluha thumma kulu fiha. Il leur a dit, ne mangez pas dedans, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres, alors lavez-les et mangez, puis mangez dedans. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. Il a dit, si par contre on ne sait pas, c'est-à-dire on n'a pas pris connaissance qu'elles sont impures, et les gens qui les possèdent, ils ne sont pas connus pour utiliser les impuretés, alors on peut les utiliser. D'où ils ont tiré ça notamment, là ils vont citer une preuve. Il y en a une d'abord, c'est que dans le hadith qu'ils ont cité eux-mêmes auparavant, qui est dans le Bukhari et le Muslim, dans la version qui est dans le Musnad de l'imam Ahmed, on a la question complète de Abu Tha'laba. Abu Tha'laba, il a dit en fait, à propos des gens du livre chez qui il vivait, il dit وَهُمْ يَأْكُلُونَ فِيهَا الْخِنْزِيرُ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرُ. Il dit, ce sont des gens qui, ils mangent le porc dans leur récipient et ils boivent l'alcool dedans. Donc c'est là qu'il a dit « Donc, est-ce qu'on peut les utiliser ?» Donc ça prouve bien que le hadith, il parle de gens qui ont l'habitude d'utiliser ces récipients pour des impuretés. C'est-à-dire pour le porc et pour l'alcool, puisque la majorité des ulama disent que l'alcool, il est impur. Donc c'est de là qu'ils ont dit que si par contre ce sont des gens qui n'utilisent pas les récipients pour de l'impureté, alors on peut sans aucun problème les utiliser. On peut rajouter aussi, ou alors si on sait qu'ils les lavent. Puisqu'ils disent bien ici, même s'ils utilisent pour une impureté, on a le droit de les utiliser qu'une fois lavés. Donc toi, si tu vas chez Flunch par exemple, c'est sûr que les récipients, il y a de la pureté dedans. Mais les Flunch, ils ont une vaisselle. Ils ne servent pas les récipients, quelqu'un a mangé, ils te la remettent. Ils le lavent d'abord. Donc si tu sais qu'il y a une impureté, mais tu sais aussi qu'il a été lavé. Or, on peut les utiliser qu'une fois lavés, tu peux l'utiliser. Tu peux manger tes frites au poisson chez Flunch, puisqu'ils ont lavé la vaisselle. Donc il dit ici, et ça c'est aussi important pour les convertis, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent manger chez leurs parents, s'ils savent que les récipients sont lavés, ils peuvent manger. لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ أَخَذُ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ مِنْ مَزَادَةِ مَرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. Puisqu'il y a aussi un hadith, donc, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont fait leurs ablutions à propos d'un récipient qui appartenait à une femme polythéiste, Al-Mazada. C'est un récipient qui est fait à partir des peaux de bête. وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْنَا فِي أَوَانِيهِمْ كَمَا دَعَى غُلَامٌ يَهُودِيٌ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَ فَأَكَلَ مِنْهَا. Et aussi parce que Allah nous a permis de manger la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire leur nourriture en général et, ce qui concerne la viande, ce qu'ils égorgent. Et bien sûr, ils vont nous l'amener dans leur récipient à eux. Donc si c'est interdit de manger dans leur récipient, ça peut être viré l'ordre, la permission de manger leur nourriture. Comme c'est arrivé au prophète qu'un jeune homme juif, il l'a invité à manger dans son récipient et il lui a invité à manger un plat et le prophète, en fait, il a répondu à l'invitation et il a mangé. Mais ce qui prouve bien que ce n'est pas une interdiction absolue pour le simple fait qu'ils ne sont pas musulmans. L'interdiction, elle est quand tu sais que ça a été utilisé pour de la pureté et que ce n'est pas lavé ou que tu ne peux pas le laver. Donc ensuite il dit Al-Mas'alatu al-Rabi'a, al-Taharatu fil-Aniyati, al-Muttakhadati min juloud al-Mayta. Ensuite la purification à partir des récipients qui sont faits à partir des peaux mortes, des peaux des bêtes mortes. Donc là, en fait, il va parler de la question, est-ce que les peaux mortes, est-ce que c'est pur ou c'est impur? Quand est-ce que c'est pur? Quand est-ce que c'est impur? Donc il dit, « Jildul maytati idha dubira tahura wa jaza isti'malu. » Premièrement, il dit la peau d'un animal mort, quand on le tanne, alors il devient pur et on peut l'utiliser. Puisqu'à la bête, à la base, la bête morte, elle est impure. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Donc la base c'est qu'elle est impure. Si on tanne la peau elle devient pure. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Puis dans le hadith il a dit sallallahu alayhi wa sallam, chaque ihab, c'est-à-dire chaque peau morte qui est tannée devient pure. Le hadith il est dans At-Tirmidhi, dans Sahih Muslim. Donc on n'a pas besoin de connaître l'authentification. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوهم فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة قال فإنما حرم أكلها. Dans un autre hadith, il a vu quelqu'un qui traînait une peau morte d'un mouton, ou qui traînait un mouton mort, et il leur dit pourquoi ils ne prennent pas sa peau et ils l'attendent et qu'ils l'utilisent. Et ils ont dit mais c'est un animal mort, et il a dit qui est interdit, c'est de le manger. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser sa peau morte si on à condition de la tanner d'abord. Ça, c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim. وَهَذَا فِي مَا إِذَا كَانَتِ الْمَيْتَةُ مِمَّا تَحِلُّهَا الزَّكَاتُ وَإِلَّا فَلَا. Là, ils disent, ça, c'est quand c'est un animal que l'on peut égorger quand il est vivant. C'est-à-dire, les animaux licites à manger, comme le mouton, la vache, le chameau. Ce sont ces animaux-là dont on peut prendre la peau pour le tanner. D'où ils ont tiré ça? Ils ont tiré ça du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça sur un mouton. Donc on ne peut pas élargir le cas aux autres animaux. On peut l'élargir que aux animaux qui sont comme le mouton, c'est-à-dire qui sont licites à manger. Et ça c'est l'opinion notamment d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim et des ulama comme le Sheikh Ibn Baz, etc. Et c'est une opinion dans l'école Hanbalite. Mais sinon en vérité cette question a plein d'autres opinions. Il y en a qui disent tant que l'animal il est pur. Même si ce n'est pas un animal qu'on peut égorger, il suffit que ce soit un animal pur. Un chat, par exemple, il est pur. Mais tu ne peux pas l'égorger pour le manger. Donc est-ce que tu peux tanner sa peau ou pas? Donc cette opinion, oui, dans l'autre, non. D'autres, ils disent tous les animaux, même le porc, même le chien, tu peux tanner la peau, puisque dans le hadith, il n'a pas dit, il a dit de façon générale. Donc même la peau d'un porc, si tu la tannes, elle devient pure. Donc il y a beaucoup d'opinions différentes. Il y en a, ils ont dit tous les animaux, même le chien, sauf le porc. Donc parce que le porc, il est impur et le chien il n'a pas de peau qu'on puisse tanner. Enfin, c'est-à-dire il y a sept paroles différentes dans cette question. Mais les paroles un peu les plus fortes, c'est celles qui disent ici, c'est-à-dire soit c'est pour les animaux qu'on peut égorger quand ils sont vivants, ou alors de dire c'est des animaux purs, ou alors ceux qui disent le hadith il dit comme ça, il n'y a pas d'exception. Ça concerne tous les animaux. Et il faudrait revenir plutôt donc, aux paroles des salaf, c'est-à-dire trouver les fatawa des compagnons et des tabi'in pour voir ce qu'ils disaient. Mais personnellement, j'en connais pas. Donc le plus sûr, c'est de se contenter de la fatwa d'Ibn Taymiyyah, qui dit ça concerne les animaux qu'on peut manger, comme les moutons, les vaches, etc. Et en fait, la question pourquoi elle est importante pour nous, c'est surtout par rapport aux bouseaux en cuir, en fait, qui sont faits souvent de peau de porc. Donc à partir de notre opinion sur ce sujet, on va mettre ou ne pas mettre un bouson en cuir qui est fait à partir de la peau du porc. Parce que s'il est impur, on n'a pas le droit de le porter ni de prier dedans. Et si on prie dedans, la prière elle passe pas. Parce que c'est l'équivalent de prier avec de l'urine sur son vêtement. Puisque comme on a dit, une des conditions de la prière, c'est la pureté, notamment du vêtement, donc du corps, de l'endroit et du vêtement. Donc le vêtement que tu portes dans Salat, si c'est un animal, un cuir fait à partir de peau de porc, et qu'on suit l'opinion, comme quoi c'est impur, même si on l'attame, donc la prière elle est invalide. Donc c'est pour ça, à la limite, le plus sûr c'est de l'éviter.
وأما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة.
Donc il dit en ce qui concerne le poil des animaux, ça c'est pur. Même s'ils sont morts, même si, c'est-à-dire, bien sûr, le poil n'a pas de tamis, mais le poil des animaux morts, ça c'est pur.
وأما اللحم فإنه نجس.
C'est-à-dire, il dit, bien sûr, on parle des poils d'animaux qui sont licites à manger quand ils sont vivants.
وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله.
Et quant à la viande de l'animal mort, elle est impure et elle est interdite à manger.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
Puisqu'Allah il a dit dans Surat Al-An'am, à propos de ce qui est interdit, sauf si c'est une bête morte, ou du sang, مَسْفُوح, c'est-à-dire le sang qui coule quand on égorge la bête, أَوْ لَحْمَ, ou de la viande de porc, car c'est une impureté. Donc Allah il a qualifié d'impureté, la bête morte.
ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد.
الدبغ, c'est-à-dire le fait de tanner la peau, c'est le fait de la nettoyer de toutes les saletés qu'elle comporte.
بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره.
En utilisant des produits qu'on va mélanger à l'eau, comme le sel ou autre chose. Donc ça revient à la coutume des gens et ceux qui savent le faire.
أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرار ونحوهما.
Ou alors par différents végétaux, comme le sel, le qarad ou l'arar. Donc je pourrais pas traduire en français.
وأما ما لا تحل الزكاة فإنه لا يطهر.
Donc est-ce qui n'est pas qu'on ne peut pas égorger pour manger pendant sa vie, alors sa peau, quand il est mort, même avec le tannage, elle ne devient pas pure.
وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدواء.
Donc, et selon cet avis, la peau du chat et de ce qui est en dessous du chat ne devient pas pure, même si on tanne la peau.
Voilà, aucun affihal il hayat il tahira, même si c'est un animal pur pendant sa vie.
Donc, différencier, retenir qu'il faut bien différencier entre l'animal pur et l'animal qu'on peut manger. C'est pas pareil.
Puisque le chat, il est pur, mais on ne peut pas le manger.
وجد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباء. Et ce qui est interdit à manger pendant que c'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de manger, même s'il est pur pendant sa vie, ne devient pas pur, même si on tend sa peau.
Et
donc il dit pour conclure et pour résumer, tout animal mort que l'on pouvait manger, comme un mouton, une vache, etc., alors sa peau, on peut la purifier en la tannant. Et tout animal mort qui fait partie des animaux qu'on ne peut pas manger, même si on tanne sa peau, elle reste impure. Donc on va se contenter de ça, et donc pour la prochaine fois, ça va parler de qaba ul haja, c'est-à-dire les comportements à avoir pour quelqu'un qui veut accomplir ses besoins naturels. Et à mon avis, ça va faire un cours complet. Et après, il rentre dans les ablutions. Donc on va passer au cours d'arabe.